Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes mardi 25 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Aujourd'hui, nous prenons d'abord la route d'Ostende, où a lieu depuis hier le sommet de la mer du Nord. Le défi industriel s'annonce colossal. Qu'en pensent les sociétés européennes actives dans l'éolien ? Ensuite, nous parlerons des marges bénéficiaires des entreprises l'année dernière et de Bpost, qui retire ses prévisions 2023. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez le Brief.
Brief, 7 infos dès 7h.
Il y a comme un parfum de crise chez Bpost Group. L'entreprise postale a fait savoir via un communiqué publié en toute fin de soirée hier qu'elle retirait ses prévisions 2023. Bpost estime que des marges sur des services rendus à l'État pourraient être contraires à la loi et l'impact financier serait de 25 à 50 millions d'euros. Ces derniers mois, suite à des doutes au sujet de la régularité de la concession liée à la distribution des journaux, Bpost a lancé un audit interne qui s'est transformé en une enquête forensique. Les premiers résultats ont laissé apparaître l'existence d'un accord tripartite entre deux éditeurs de journaux flamands, DPG et Mediahuis, et la société de distribution PPP. Les pièces et les conclusions de cet audit interne ont été communiquées à l'autorité belge de la concurrence, qui mène également son enquête. Le parquet de Bruxelles suit lui aussi le dossier de près. En attendant, chez Bpost, on a décidé de continuer de soulever tous les tapis, de faire un grand ménage, afin de tenter de décrocher la nouvelle concession 2023-2027. Et il semble qu'on ait découvert là de nouveaux cadavres dans les placards. Il y a gros à parier que l'action Bpost mord de la poussière ce mardi à l'ouverture du marché bruxellois. Les yeux sont rivés sur Ostende en ce début de semaine. Le port ouest-flandrien accueille depuis lundi la deuxième édition du sommet de la mer du Nord. Les chefs d'État et les ministres de l'énergie de 9 pays européens, la présidente de la Commission européenne et les dirigeants d'une centaine d'entreprises du secteur sont présents. Le principal objectif de ce sommet est de relever les capacités de production électrique des éoliennes offshore à 300 gigawatts d'ici 2050. C'est 8 fois la capacité actuelle. Mais l'industrie pourra-t-elle relever ce défi colossal ? Luc Van den Bulk, le CEO de DEME, l'entreprise de dragage devenue leader mondial dans l'éolien en mer, nous répond, sous le vent marin, au micro de Maxine Van de Weyer, un des spécialistes de l'énergie à l'éco.
Je crois que oui, donc l'industrie va pouvoir répondre, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Il y a les turbines qui doivent être fournies, il y a les bateaux, il y a les câbles, donc il y a toute une industrie quand même qui doit se mettre en place, parce qu'aujourd'hui on fait 5 gigawatts par an, il va falloir en faire 20. Donc oui, c'est un challenge, mais ça va se faire.
Et pour relever ce challenge et réussir le Made in Europe énergétique, l'industrie appelle à lever de nombreux obstacles, notamment réglementaires. Serge Quadbach, vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'Écho. Vous signez l'édito de ce matin, 300 gigawatts. Est-ce que c'est suffisant pour fournir en conditions optimales de l'électricité à 300 millions de ménages ? Ça fait rêver, mais est-ce que c'est possible ?
On aimerait que ça soit possible, hein. C'est un beau rêve, mais sur le terrain, on constate qu'effectivement, c'est assez compliqué. Et en Europe en particulier, malgré le boom de la demande, les grands acteurs européens tirent la langue. Siemens, Gamesa, Vestas, Ørsted, tous des grands acteurs européens ont dévoilé des pressions sur le revenu, des prévisions moindres qu'attendues. Alors, il y a des causes conjoncturelles, évidemment, on les connaît, les problèmes d'approvisionnement, il y a l'inflation, des prix des matériaux, de la main-d'œuvre, des transports, des matières premières, tout ça renforce la concurrence chinoise. Mais il n'y a pas que la conjoncture, il y a aussi la bureaucratie. Fin janvier, Vestas, un de nos tout gros acteurs, se plaignait de la lenteur des processus d'autorisation en Europe. Des lenteurs qui n'épargnent pas non plus la Belgique. Le gouvernement vient d'annoncer un retard dans les appels d'offres pour le développement de la zone Princesse Elisabeth, un grand parc offshore en mer du Nord. Il y a aussi des retards dans les projets Ventilus et Boucle du Hainaut, des lignes à haute tension indispensables pour relier le pays à l'éolien offshore. offshore. Donc on voit que c'est assez compliqué et qu'il va falloir que tout le monde mette un peu de l'eau dans son vin pour y parvenir. Mais effectivement, le projet est très beau et il mérite qu'on s'y attaque.
La hausse des coûts salariaux a impacté les marges bénéficiaires des entreprises en 2022. C'est ce que nous disent les derniers chiffres de la Banque nationale de Belgique. En effet, les entreprises ne peuvent pas toujours répercuter les augmentations sur leurs prix de vente. Et résultat, leurs marges ont diminué l'année dernière après plusieurs années de hausse consécutive. Cela dit, le taux de marge reste historiquement élevé en Belgique. Toutefois, il est surtout stimulé par les bénéfices importants réalisés par les très grandes entreprises. Par ailleurs, l'indicateur ne rend pas compte de l'hétérogénéité des situations très différentes en fonction des secteurs. Et les coûts salariaux continuent d'augmenter. Ainsi, les marges bénéficiaires devraient poursuivre leur baisse en 2023. S'il y en a une qui ne doit pas trop s'en faire pour ses marges, c'est LVMH. Le groupe français de luxe pèse désormais plus de 500 milliards de dollars en bourse. C'est la première fois qu'une société européenne atteint un tel niveau de valorisation. L'action du groupe a gagné plus de 30% depuis le début de l'année. Bruno Ravescott, bonjour.
Bonjour Son.
Vous êtes le responsable du service investir à l'Écho. Dites-nous comment expliquer la croissance fulgurante de LVMH.
Alors l'élément principal qui soutient la capitalisation boursière d'LVMH, c'est en particulier la Chine et tout particulièrement en fait la réouverture de la Chine. On sait qu'il y avait des restrictions liées au Covid. Elles ont été levées par Pékin ces derniers mois et ça a clairement relancé la consommation et les ventes tout particulièrement de ces produits. On sait que les Chinois raffolent des marques de luxe et tout particulièrement des sacs Louis Vuitton, Christian Dior, de la joaillerie Tiffany, tout ça est dans le portefeuille du groupe LVMH. Alors un autre élément qui vient aussi ici s'ajouter, puisqu'on parle de 500 milliards de dollars, c'est évidemment l'euro. L'euro se traite actuellement à un plus haut depuis un an face au billet vert. Et là évidemment, c'est aussi quelque chose qui a été de nature à soutenir la capitalisation boursière d'LVMH dès lors qu'elle est libellée en dollars.
Voilà de quoi enrichir encore un peu le portefeuille de son patron, Bernard Arnault. Il est récemment devenu la première fortune mondiale avec des avoirs estimés à près de 212 milliards de dollars. Le secteur de la mode lave son linge sale. Levi's vient de faire condamner l'entreprise allemande New Yorker à 30 millions d'euros de dommages pour contrefaçon. Pour comprendre l'origine du conflit, il faut faire un petit retour dans le temps. Vous connaissez le célèbre V, emblématique sur la poche arrière des jeans Levi's? En 2006, Levi Strauss accuse New Yorker de copier ce signe sur des milliers de pantalons contrefaits. Les deux parties signent finalement un accord, contraignant la société allemande à ne plus vendre les jeans concernés. Mais en 2014, Levi Strauss attaque en justice New Yorker pour non-respect de ses engagements. Désormais, presque 10 ans plus tard, et après un appel, l'affaire vient de se boucler. La cour d'appel donne raison à Levi's et estime que 600 000 pantalons contrefaits ont été vendus à raison de 50 euros versés par jean contrefait. La facture s'avère salée pour New Yorker qui va certainement devoir se serrer la ceinture. Le groupe de distribution Casino suscite des convoitises. L'enseigne lourdement endettée a reçu 2 offres pour renflouer ses caisses. L'une d'Intermarché et l'autre du milliardaire Daniel Kretinsky. L'homme d'affaires tchèque détient déjà 10% de Casino. Il propose donc désormais d'en prendre le contrôle. Savez-vous qui est Daniel Kretinsky ? Simon Souris, un de nos journalistes spécialisés dans les entreprises, nous en dit plus.
Daniel Kretinsky, c'est un homme qui a d'abord fait fortune dans l'énergie en Europe centrale et qui, au fil du temps, par une certaine francophilie, a décidé de diversifier ses actifs. Il se retrouve aujourd'hui dans toute une galaxie d'activités. Ça va de la distribution, aujourd'hui avec Casino, dont il est déjà actionnaire, jusqu'à la logistique. On le retrouve dans PostNL, dans Royal Mail, mais ça passe aussi et surtout, en tout cas en France, c'est un élément important par le monde des médias. On le retrouve dans TF1, dans Elle, dans Le Monde, dans Libération. Demain aussi, on pourrait le retrouver dans l'édition. Il est en train de négocier le rachat d'Editis. Voilà, ce sont des noms connus comme Robert Laffont, Plomb et d'autres, Pocket. Et alors enfin, amateur de ballon rond, l'homme est aussi à retrouver dans le foot. Il est notamment à la tête d'un club de foot à Prague, donc le club Sparta, et aussi actionnaire du West Ham à Londres. Et donc finalement, Mécasino s'apparente à une pierre de plus dans un édifice déjà bien construit.
Quelle est sa vision à long terme? Quels sont ses objectifs derrière tous ces investissements?
C'est compliqué à savoir parce que c'est un homme très discret. À l'inverse de sa fortune qui est très élevée, mais ses mots sont peu nombreux. Et donc, il évoque comme ça de temps à autre dans des interviews un amour de la langue française qui le pousse notamment pour l'activité média, pour laquelle il est prêt d'ailleurs à perdre un peu d'argent, à la différence du reste de ses participations, où là, voilà, c'est une logique de diversification de patrimoine, comme il a pu déjà le faire en République tchèque, qui poursuit sur un marché qu'il aime bien, la France, et là avec une logique purement économique.
Est-ce qu'on assiste à un retour de l'époque de la guerre froide? En tout cas sur le plan des dépenses militaires, c'est certain. En Europe, en 2022, elles ont franchi le niveau de la fin de la guerre froide. Et ça, ce sont des chiffres qui viennent de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui s'appelle le CIPRI. Cette progression record, elle est bien entendu dopée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais cela n'explique pas tout. Les dépenses sont également tirées par les tensions croissantes en Asie de l'Est entre la Chine et les États-Unis. L'époque du désarmement semble révolue et la tendance est globale. Les dépenses militaires mondiales ont en effet atteint l'an dernier un nouveau sommet de 2240 milliards de dollars, c'est 2,2% du PIB mondial. Les États-Unis, premier du classement, concentrent 39% des dépenses mondiales, suivi de la Chine, qui en concentre 13%. C'est une grosse semaine en vue pour la Big Tech. On attend les résultats de plusieurs mastodontes du secteur, Alphabet et Microsoft mardi, suivi par Meta mercredi et Amazon jeudi. Pour Apple, il faudra encore attendre jusqu'au 4 mai. Alors à quoi on peut s'attendre? Comment se porte la Big Tech ces derniers temps? Écoutez l'analyse de Charles Régnier, un de nos journalistes financiers à l'Écho.
La Big Tech se porte vraiment très très bien ces derniers temps, en tout cas en bourse. Les cours de leurs actions ont tous fortement grimpé en 2023. Mais quand on se concentre sur certaines de leurs activités clés à ces géants de la tech, on peut voir que par contre là, ça ne se porte pas si bien que ça. Par exemple, il y a Microsoft ou Amazon qui génèrent énormément de revenus grâce au cloud computing ou l'informatique dématérialisée. Et ça, on peut voir qu'il y a un ralentissement de la croissance à ce niveau-là. Quand il s'agit de Alphabet, la maison mère de Google et de YouTube et de Meta, eux, ils sont fortement dépendants de la publicité en ligne. Et on sait que ça, c'est aussi un secteur qui est fortement en ralentissement depuis quelques mois déjà et ça risque encore de perdurer. Donc pour ces résultats, ce qu'on peut s'attendre justement, c'est de voir un ralentissement de la croissance de certains des activités clés des géants de la tech. Et ce qu'on peut aussi s'attendre, c'est un certain nombre de commentaires sur l'intelligence artificielle ou en tout cas, ça, ce sera fortement scruté par les investisseurs.
Et nous ne manquerons pas de vous reparler aussi de l'intelligence artificielle dans le brief. Nous consacrons un dossier sur le sujet que vous pouvez retrouver sur l'écho.be. Allez jeter un œil et faites-nous un petit retour sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté le brief. Ondine Ouérès était à la préparation de ce podcast. Je vous retrouve demain en pleine forme. Passez une belle journée.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.